La reine du Niagara, Chris Van Allsburg. Imaginez-vous pas plus gros qu'une puce, au bord d'un trottoir, juste à côté d'une bouche d'incendie jaillissante. C'est ce que ressentent les visiteurs qui arrivent au bord des chutes du Niagara. L'eau est précipitée d'une hauteur semblable à celle d'un immeuble de 17 étages et gronde comme une locomotive en se fracassant tout en bas, au milieu des rochers, dans un perpétuel nuage de brume. Quiconque s'aventure en bas des chutes frissonne en sentant la terre trembler sous ses pieds. Le visiteur qui arrivait à Niagara Falls en 1901 trouvait deux petites villes construites de part et d'autre des chutes et d'une multitude d'hôtels accueillant les voyageurs qui débarquaient chaque jour par train entier. Notre histoire commence à Bay City, Michigan, petite localité située à 300 km à l'ouest de Niagara Falls et spécialisée dans l'exploitation du bois. Dans sa grande rue, il y avait un cours de maintien, un lieu où les enfants des meilleures familles de la ville pouvaient apprendre à choisir la bonne fourchette à table, à danser la valse et à découvrir l'utilité des mouchoirs. La propriétaire du cours et unique professeur était une veuve de 62 ans, petite, grassouillette et tatillonne, qui s'appelait Annie Edson Taylor. Elle avait pendant de longues années sillonné l'Amérique en donnant des cours de danse et de bonnes manières. Ses voyages finirent par la mettre à Bay City, où plus d'une centaine d'enfants s'inscrivirent dans son cours. Pourtant, le succès fut de courte durée. Annie vieillissait, ses classes se firent moins nombreuses, et bientôt elle fut obligée de dire adieu à son dernier élève et de fermer boutique. Assise dans la chambre d'une pension de famille qu'elle appelait sa maison, Annie s'inquiétait de son avenir. Elle n'avait pas mis beaucoup d'argent de côté et craignait de se retrouver à l'hospice, un endroit misérable où les personnes âgées sans argent et sans famille allaient finir leur jour. Elle envisagea de chercher un travail banal de vendeuse ou de femme de ménage, mais elle ne pouvait s'imaginer derrière un comptoir vendant des bonbons à ses anciens élèves ni l'avant-parterre chez leurs parents. Elle était trop fière et le salaire qu'elle toucherait serait trop modeste. Ce qu'il fallait à Annie, c'était un plan, une idée pour faire fortune et oublier ses tracas financiers. Les jours passaient et ses maigres économies devenaient toujours plus maigres. Malgré tous ses efforts, Annie ne trouvait pas d'idée jusqu'à ce que par une chaude soirée de juin, elle remonte dans sa chambre avec un journal. En première page, il y avait un article sur le grand nombre de touristes qui cet été-là visitaient Niagara Falls. Annie avait vu les chutes quand elle était petite et se souvenait fort bien des eaux rugissantes et de la foule qu'elle attirait. Soudain, comme un bouchon de champagne qui saute, une inspiration lui vint. Elle trouverait la fortune et la gloire en faisant quelque chose que personne au monde n'avait jamais fait. Annie Taylor descendrait les chutes du Niagara dans un tonneau. Le lendemain matin, Annie entreprit de préparer sa descente. Elle savait qu'un tonneau ordinaire ne ferait pas l'affaire. Il fallait quelque chose de spécial. Elle en dessina un qui répondrait à ses besoins et qui serait d'une incroyable solidité et aurait juste la taille de sa passagère. Elle emporta son dessin dans un atelier où l'on fabriquait des tonneaux. Le contremaître, qui n'avait jamais vu de tonneau comme celui-ci, demanda à quoi il était destiné. Quand elle lui révéla son projet, il la dévisagea, incrédule, et lui rendit son dessin en jurant que jamais son atelier ne fabriquerait une chose pareille. Annie regagna sa chambre et continua à rêver à la gloire et à la fortune qu'elle connaîtrait quand elle aurait triomphé des chutes. 3 jours plus tard, Annie retourna voir le tonnelier et le persuada que s'il fabriquait le tonneau selon son dessin, elle s'en tirerait sans dommage. Le contremaître accepta et mit ses 3 meilleurs ouvriers à la tâche. Les ouvriers en convinrent, c'était un objet vraiment costaud. Il se pourrait même qu'ils descendent les chutes en un seul morceau. Ce qui ne voulait pas dire que quelqu'un pourrait survivre à l'intérieur. Annie comprenait le problème. Si vous placez un œuf dans une boîte de conserve et que vous la laissez tomber par terre, la boîte pourra rester intacte, mais il n'en sera pas forcément le cas pour l'œuf. Voilà pourquoi Annie avait conçu le tonneau juste assez grand pour tenir dedans avec beaucoup d'oreillers. Puis elle fixa à l'intérieur des poignées métalliques auxquelles se cramponnaient et une ceinture en cuir pour s'attacher solidement. Elle commença à organiser son voyage. Il lui fallait un manager, quelqu'un qui aille à Niagara Falls avant elle et éveille la curiosité des journalistes, leur parle de cet exploit extraordinaire. Elle engagea Frank Russell. La première fois qu'il vit Annie, il lui demanda si elle n'était pas trop âgée pour tenter une telle aventure. Annie savait bien que les gens s'intéresseraient davantage à un casse-cou plus jeune. Aussi, elle raconta qu'elle n'avait que 42 ans, gommant d'un coup 20 ans de son âge réel. Mr. Russell eut bien du mal à la croire et songea qu'il ne serait pas le seul. Il comprit qu'Annie était tout à fait décidée à descendre les chutes et fut convaincu que si par miracle elle réussissait à sortir vivante de son tonneau, il y aurait de l'argent à gagner. Il pourrait exhiber Annie dans toute l'Amérique, de salle de conférence en salle de spectacle, où le public paierait pour l'entendre raconter son histoire et voir le tonneau. Il pourrait faire fortune. Frank partit donc pour Niagara Falls préparer l'entrée en scène d'Annie et engager quelqu'un chargé d'amener Annie sur la rivière au sommet des chutes avec son tonneau. Il trouva donc Fred Truesdale et son second, Billy Holleran. Quand Annie et son tonneau débarquèrent à Niagara Falls, Frank Russell fit en sorte qu'il y ait des journalistes à la gare. Comme il avait beaucoup déformé la réalité et décrit Annie sous les traits d'une aventurière de 42 ans qui escaladait des montagnes et traversait à la nage des lacs glaciales, les journalistes s'attendaient à voir un autre style de femme que celle qui descendait du train. Ils furent nombreux à se demander si l'exploit promis n'était pas un canular. Le tonneau descendrait les chutes, mais Annie Taylor serait-elle vraiment à l'intérieur? Frank Russell décida qu'Annie devait attendre 10 jours avant de s'élancer dans les chutes. Cela permettra de faire monter l'attention et l'intérêt du public au fur et à mesure qu'il lirait les articles des journaux parlant de l'intrépide Miss Taylor et verrait son tonneau dans le hall de l'hôtel. Quand vint le jour, Annie et Frank prirent une calèche qui les emmena au bord de la rivière chez Fred Truesdale, le marinier. Le tonneau d'Annie, arrivé de l'hôtel, l'y attendait déjà, ainsi que de nombreux journalistes et une petite foule de badauds. La foule était bien plus grande en bas des chutes. Fred et son second emmenèrent Annie et son tonneau sur une barque jusqu'au milieu de la rivière en s'approchant le plus possible du point de non-retour. Un endroit où la rivière coule si vite vers les chutes qu'aucun bateau ne peut échapper à sa puissance. Annie enleva alors sa veste et son chapeau et entra dans le tonneau à reculons. Elle s'attacha et demanda au marinier de lui donner les oreillers qu'elle avait apportés. Quand elle fut bien emballée à l'intérieur, elle demanda à Fred et à Billy de fermer hermétiquement le tonneau à l'aide de vis. Puis ils poussèrent le tonneau dans l'eau. Le long de la rive, la foule qui attendait aperçut le tonneau d'Annie emporté par une rivière déchaînée qui devenait plus violente au fur et à mesure qu'elle filait vers l'horrible saut. Le tonneau tourbillonnait, heurtait rochers et vagues, disparaissait parfois entièrement à la vue, aspiré sous la surface. Un cri s'éleva. « Elle arrive !» qui fut répété et répété encore pour apporter la nouvelle aux milliers de personnes postées au pied des chutes. Si Annie avait pu voir tous ces gens venus assister à son exploit, elle aurait éprouvé de la fierté. C'était exactement ce qu'elle avait espéré. Mais ce qu'elle éprouvait à l'intérieur du tonneau humide et glacé, c'était la sensation d'être secouée dans tous les sens. Tandis qu'elle dévalait les rapides qui menaient aux chutes, pendant une seconde, elle avait la tête en bas. L'instant d'après, elle se retrouvait sur le côté, puis sur le dos. À croire qu'un géant en colère envoyait à grands coups de pied le tonneau vers les chutes. Bang, bang, bang. Annie savait que le pire était encore à venir. Fred Trousdale lui avait expliqué que l'eau tout au bord des chutes serait calme pendant un instant. Et là, il serait temps de se cramponner et de prier. Ce fut précisément ce qui arriva. Elle flotta lentement et à la verticale. Elle entendit gronder les chutes, même à travers son gros tonneau de chêne. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, avant de disparaître. Quelques spectateurs hurlèrent en voyant basculer le tonneau. D'autres restèrent silencieux, bouche bée à scruter l'eau écumante. Il n'y avait plus trace d'Annie, pas même un morceau de bois. Soudain, le tonneau jaillit à la surface. La foule, ignorant ce qui était arrivé à sa courageuse passagère, se taisait. Quand le tonneau s'approcha de la rive, des hommes se jetèrent à l'eau pour le hisser sur les rochers. Ils firent sauter le couvercle à l'aide d'un marteau. L'un des sauveteurs s'accroupit devant le tonneau obscur. « Miss Taylor ?» demanda-t-il. Un silence de mort lui répondit. « Miss Taylor ?» Puis une toute petite voix s'éleva. « Où suis-je ?»« Madame, » répondit l'homme, « vous avez passé les chutes. » Il fallut un petit moment à Annie pour s'extraire du tonneau. Quand elle y parvint, la foule applaudit. Annie lui fit un signe de la main, mais elle pouvait à peine lever le bras. Elle était couverte de bleu et avait mal partout. Une balafre lui barrait le front et la tête lui tournait violemment. Frank emmena Annie à l'hôtel où des médecins l'examinèrent et lui recommandèrent de rester au lit pour guérir ses blessures sans gravité. Pendant les jours suivants, des journalistes du pays tout entier passèrent la voir. Son histoire parut bientôt dans les journaux de New York à San Francisco. Les Américains n'auraient pas été plus ébahis s'ils avaient lu qu'un cheval jouait au baseball ou qu'un bébé avait été élu président. Comment pouvait-on, surtout quand on était une femme, survivre à la descente des chutes du Niagara ? Dès qu'Annie se sentit assez bien pour voyager, Frank Russell se mit à chercher des moyens de gagner de l'argent. Il emmena la veuve dans une grande fête foraine près de Buffalo. Des centaines de personnes firent la queue pour acheter un ticket et voir la surprenante reine du Niagara. Quand Annie arriva sur scène à côté de son tonneau, le public fut déconcerté. Était-il possible que la personne qui était là devant eux, cette grand-mère, soit réellement l'intrépide et courageuse Miss Taylor qui avait osé descendre les chutes ? Annie raconta son histoire, mais quand elle arriva au bout, il n'y eut ni questions enthousiastes, ni applaudissements assourdissants. Tout le monde semblait trouver le tonneau beaucoup plus intéressant que la femme qui était montée dedans. Lorsqu'Annie était encore à Bay City et qu'elle s'imaginait marcher vers la fortune et la gloire, elle pensait que le plus difficile serait de descendre les chutes du Niagara dans son tonneau, mais elle se trompait. Tout au long de l'automne et de l'hiver 1901, Annie et Frank Russell allèrent en train de ville en ville, mais la réaction face à Annie était toujours la même. Les gens perdaient tout intérêt en découvrant que l'intrépide reine du Niagara était une petite vieille. Finalement, Frank comprit qu'Annie ne lui rapporterait pas la fortune. Il déroba le tonneau et s'enfuit. Par chance, Annie le récupéra et trouva un nouveau manager qui, peu de temps après, lui vola aussi son tonneau. Annie rentra à Niagara Falls, se fit reconstruire un nouveau tonneau qu'elle décida d'installer dans le parc qu'elle avait visité enfant, tout près des chutes. Là, sur une table, elle disposa des cartes postales sur lesquelles elle posait avec le tonneau et des exemplaires de la brochure qu'elle avait écrite sur sa vie et son fameux exploit. Elle invita les touristes passant par là à acheter une carte et à rencontrer la reine du Niagara. Assise à l'ombre de son tonneau, elle était toujours prête à raconter son histoire. Un après-midi, une semaine après le 10e anniversaire de sa descente des chutes, son état reçut un visiteur. C'était un journaliste qui écrivait un article sur son remarquable exploit. La reine du Niagara fut heureuse de répondre à ses questions et tous deux s'assirent sur un banc au bord des chutes. Annie lui raconta que lorsqu'elle était petite, elle et son père sont venus ici. Son père lui a demandé si elle avait peur. Elle répondit que oui, tout en lui demandant de pouvoir s'approcher encore un peu plus du bord. C'est ce que chacun se demande quand il voit les chutes du Niagara, dit-elle au journaliste. Jusqu'où son courage lui permettra-t-il de s'en approcher? Voyez-vous, monsieur, il est impossible de s'en approcher davantage que je ne l'ai fait. Demandez à tous ceux qui sont venus ici pour regarder les chutes ce qu'ils pensent de quelqu'un qui les a descendus dans un tonneau. Eh bien, ils admettront tous, sans exception, que c'est le plus grand exploit jamais accompli. Et moi, je suis satisfaite de pouvoir dire « C'est moi qui l'ai accompli ».